Mardi 21 février, il est 16h précise. Le débrief est en marche. C'est Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Bienvenue dans l'émission. Merci de syntoniser le 107,9 FM à Victoria. On expédie immédiatement les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Au retour, dans quelques minutes, la météo et la suite des informations. En chronique aujourd'hui, avec Julie Gagnon, il sera question du piratage des dossiers médicaux de la base de données PharmaNet en Colombie-Britannique. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national et international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le gouverneur général du Canada, David Johnston, poursuit aujourd'hui son voyage de 4 jours en Suède. Lundi, il a déclaré en présence du premier ministre Löfven que le Canada et la Suède entretiennent une amitié de longue date ancrée dans des liens de peuple à peuple et nombre de valeurs et d'intérêts communs. Il a ajouté que les deux pays maintiennent des liens durables dans des domaines comme l'innovation, la culture, l'Arctique, l'éducation et la politique étrangère. Il a précisé que le moment est propice au partenariat, y compris dans le secteur commercial. Donald Trump est revenu sur sa déclaration du week-end dernier au cours des dernières heures concernant une attaque terroriste en Suède. Rappelons qu'aucune attaque de ce genre n'a été perpétrée dans ce pays scandinave. Utilisant son compte Twitter, bien le président américain a déclaré que les médias faisaient encore fausse route en mentionnant que l'immigration allait très bien en Suède. Il a dit qu'il ne fallait pas croire cette mise à jour médiatique dans ce dossier. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participe aujourd'hui à la web diffusion sur Facebook en regard de la semaine Parlons Énergie, et ce depuis le Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada à Ottawa. L'événement est organisé par la Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Le thème porte sur les moyens de faire passer les solutions climatiques de l'idée à l'action. Il est question également de l'adaptation aux conditions climatiques changeantes. 25% des Canadiens voient la politique de l'immigration d'une façon similaire à celle que veut mettre en place le président Donald Trump. Un communiqué de l'Institut Angus Reid, qui est à l'origine du sondage, révèle aussi que 58% des répondants estiment qu'Ottawa en fait suffisamment pour les réfugiés. Le sondage a été mené entre novembre et décembre dernier. De passage à Bruxelles, lundi, le vice-président américain Mike Pence a déclaré devant les médias que les États-Unis restent déterminés à coopérer avec l'Union européenne, mais veulent des preuves rapides que leurs alliés de l'OTAN sont prêts à dépenser davantage dans la défense commune. Mike Pence a dit que Washington s'attend à des réponses concrètes d'ici la fin de l'année. Le vice-président s'est fait ainsi le porte-parole du président Trump, qui clame depuis déjà plus d'un an revoir l'implication des États-Unis dans l'OTAN. Pence a ajouté que la défense de l'Europe requiert un engagement de l'Europe tout autant que des États-Unis. Eh bien, Vitali Tchourkin, l'ambassadeur russe aux Nations Unies, est décédé soudainement lundi après-midi à New York. Il avait été dans le passé, rappelons, ambassadeur au Canada. La confirmation est venue du ministère des Affaires étrangères de la Russie. La cause du décès n'a pas encore été annoncée officiellement. Le ministère a fait savoir dans un communiqué que ce diplomate remarquable est décédé en fonction et qu'il a rendu l'âme à l'aube de ses 65 ans. Il était en poste depuis 11 ans. Les conclusions d'une étude britannique publiée dans le journal scientifique Economics and Human Biology avancent que les enfants héritent d'environ 40% de leur indice de masse corporelle de leurs parents. Le document relance ainsi tout le débat de l'hérédité de l'obésité. Les chercheurs de l'université du Sussex ont constaté qu'environ 20% de l'indice provient de la mère et 20% du père. Le poids de quelques 100 000 enfants et de leurs parents provenant de 6 pays dont les États-Unis et le Mexique ont été étudiés. Dossier de la fonte des glaciers, eh bien, des chercheurs de l'Université de la Californie se sont penchés sur le sujet au cours des derniers mois. Ils ont étudié les données recueillies entre 1991 et 2015 concernant les glaciers dans les îles de la Reine-Élisabeth dans l'Arctique canadien. Les travaux qui viennent d'être publiés indiquent que de 2005 à 2015, la surface de fonte de ces glaciers a augmenté de 900%. Ils estiment dans leur conclusion que le réchauffement de l'air dans l'Arctique est responsable de cette situation. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de la Floride 2-1 contre Saint-Louis et l'Arizona a eu raison d'Anaheim 3-2. Ce soir, Montréal sera à New York contre les Rangers, Toronto recevra Winnipeg, Ottawa au New Jersey, Edmonton à Tampa Bay et Calgary à Nashville. Au curling, au tournoi des Cœurs Scott à St. Catharines dans le sud ontarien, eh bien, le Manitoba et l'Ontario sont toujours en tête, avec des fiches identiques de 5 victoires, aucune défaite. Équipe Canada et les territoires du Nord-Ouest suivent avec des dossiers de 3-1. Et au golf, l'Américain Dustin Johnson est maintenant le joueur numéro 1 au monde. La PGA a rendu public son plus récent classement lundi.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM tous les jours du lundi au jeudi à 16h. On est ensemble jusqu'à 17h, c'est Alexis Gagnon au micro. On va se tourner vers la météo rapidement, c'est 8 degrés au centre-ville de Victoria. Aucune précipitation sur le sud de l'île de Vancouver actuellement. Environnement Canada prévoit que le mercure descendra à 2 degrés ce soir. Demain, c'est un mélange soleil-nuage pour le 22 février, maximum de 6. Possibilité d'averse, seulement 30% de probabilité d'averse pour demain 22 février. Jeudi 23 et vendredi 24, 7 degrés au mercure, un mélange soleil-nuage encore une fois, et une probabilité d'averse concernant vendredi, il y a une probabilité qui s'élève à 40%. Pour le week-end, c'est encore très loin, mais Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca prévoit un samedi ensoleillé et un dimanche qui pourrait nous réserver des précipitations et même des précipitations de neige. Donc, ça reste à surveiller. La probabilité, pour l'instant, est à 30%. Et comme je l'indiquais, c'est encore très loin. Donc, il faudrait revenir sur le portail météo.gc.ca pour surveiller les données du week-end. On va se transporter vers le Radio-Journal des Nations Unies dans quelques instants. Au retour, ce sont les nouvelles provinciales. Merci d'écouter le débrief. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Avec à la une le débat du Conseil de sécurité sur les conflits en Europe. L'appel de l'UNICEF en faveur de 1 400 000 enfants menacés par la famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Le Yémen justement où l'OMS lance une vaste campagne de vaccination contre la polio. Et puis en dossier, nous verrons pourquoi en Libye, le procès d'une trentaine de dignitaires du régime Kadhafi n'a pas respecté les normes du droit international. Réuni ce matin au niveau ministériel, le Conseil de sécurité a donc débattu des conflits en Europe. Les 15 ont entendu l'intervention liminaire du secrétaire général Antonio Guterres, qui a rappelé que les deux conflits mondiaux déclenchés en Europe ont joué un rôle fondateur dans la création de l'ONU et du Conseil de sécurité. Listant tour à tour les points de friction dans les Balkans, à Chypre, en Géorgie, au Moldova, en Ukraine et au Karabakh, le chef de l'ONU a exhorté les parties prenantes à éviter toute mesure unilatérale ou tout fait accompli, particulièrement en Ukraine et dans le Caucase du Sud, susceptible d'exacerber la situation. Auparavant, il avait invité la communauté internationale à s'inspirer des institutions créées à l'échelle européenne.
Les dirigeants européens ont établi un dispositif collectif de paix et de sécurité sophistiqué et se sont employés à promouvoir l'ensemble des droits de l'homme, ainsi bien civils et politiques que sociaux, économiques et culturels. Beaucoup de sociétés européennes sont multiculturelles, multiconfessionnelles et multiethniques. Et les pays et collectivités qui ont investi sur les plans politiques et économiques dans la cohésion et l'inclusion montrent que la diversité est source de créativité et d'innovation. Cela étant, nous ne devrions pas tenir la paix et la prospérité en Europe pour acquises. La transition vers un monde multipolaire multiplie les incertitudes et les risques, et nous avons besoin d'institutions multilatérales et d'organisations régionales solides pour maintenir la paix et la stabilité alors que nous affrontons cette nouvelle réalité dangereuse. À l'heure où de graves conflits perdurent en Europe, de nouveaux problèmes et menaces se font jour. Le populisme, le nationalisme, la xénophobie et l'extrémisme violent sont à la fois des causes et des répercussions des conflits.
Alors que la famine se répand au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, le directeur exécutif de l'UNICEF appelle à une action rapide. S'il admet que la malnutrition sévère et la famine annoncée sont majoritairement dues à l'homme, Anthony Lake juge que le temps presse, car la famine pourrait tuer 1,4 million d'enfants au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. La correspondance d'Alpha Diallo.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance demande à agir vite pour sauver de nombreuses vies, car près de 1,4 million d'enfants risquent de mourir de la famine cette année au Nigeria, en Somalie, au Yémen et au Soudan du Sud. Dans ce dernier pays, ce sont plus de 270 000 enfants qui souffrent déjà de malnutrition. Une situation d'autant plus préoccupante que la famine vient juste d'être déclarée par Djouba dans certaines parties de l'état d'unité dans le nord du Soudan du Sud, où vivent 20 000 enfants. Dans le nord-est du Nigeria, où sévit le groupe djihadiste Boko Haram, ce sont 450 000 enfants qui ne peuvent pas se nourrir des récemment. Les régions les plus reculées de la province nigériane du Borno sont déjà frappées par la famine depuis la fin de l'année dernière, selon le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine. En Somalie aussi, la sécheresse a laissé 185 000 enfants au bord de la famine. Ils seront quelques 270 000 d'ici quelques mois, a mis en garde l'UNICEF. Autre point d'inquiétude, mais en dehors du continent africain, le Yémen, où 462 000 enfants souffrent de malnutrition sévère, une conséquence de la guerre qui fait rage depuis près de 2 ans au Yémen. Alpha Diallo, Nations Unies, Genève.
Le Yémen, justement, où une campagne de vaccination nationale contre la polio a été lancée lundi par les autorités sanitaires sur tout le territoire. Menée avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'objectif est de vacciner plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Les explications de Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS.
Plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans sont visés par cette campagne. C'est la première campagne depuis avril de l'année dernière. La situation sécuritaire au Yémen est très difficile, non seulement sécuritaire, mais aussi économique, qui fait qu'il est très difficile d'organiser des campagnes. Cette fois-ci, l'OMS a fourni les véhicules, a aussi payé les équipes. Yémen n'a pas eu de cas de polio depuis plus de 10 ans, a été déclaré sans polio en 2006. Et on sait très bien que dans les périodes difficiles comme aujourd'hui, où il y a une couverture qui est mise en épreuve, qu'il peut y avoir le risque de retour de polio. Donc on essaie de faire de notre maximum pour que cela n'arrive pas.
Mis lenguas maternas son español y galego.
Et puis ce 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle, placée sous le thème cette année « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ». L'UNESCO lance un appel pour que le potentiel de l'éducation multilingue soit reconnu partout et qu'elle permette d'appuyer la réalisation des objectifs de développement durable. Noro Adriamis César, spécialiste de programme à l'UNESCO.
Grâce à l'éducation multilingue, la pauvreté peut être réduite en passant par une éducation pour tous, pour toutes. Cette éducation doit, si possible, se faire dans la langue première ou la langue maternelle des apprenants, mais en même temps, il faut aussi apprendre d'autres langues pour qu'il y ait un lien entre le local et le global. Plus concrètement, si on veut que chacun participe à la réalisation des objectifs, il faut que chacun soit actif. Pour être actif, la langue peut transmettre les connaissances. Les langues permettent à une personne qui se trouve dans un pays quelconque à communiquer avec d'autres personnes dans le monde, à comprendre les défis qui concernent à la fois le pays où il est et d'autres pays, et peut-être à réfléchir sur des solutions communes.
Plein feu sur la Libye avec la publication d'un rapport de l'ONU qui dénonce les irrégularités dans le procès d'une trentaine de dignitaires du régime Kadhafi. Par ce document, les Nations Unies appellent les autorités libyennes à remettre à la Cour pénale internationale le fils de l'ex-président Muammar Kadhafi, condamné à mort pour son rôle dans la répression sanglante de 2011. Alpha Diallo a joint Claudio Cordone, il est représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Libye.
On vient de publier un rapport sur le procès vers le fils de colonel Gaddafi, Saif al-Islam, et 36 autres dignitaires du régime. Et on a conclu que le procès soulève de nombreuses préoccupations du point de vue, par exemple, du droit à la défense. Et en ce moment, il y a un appel, mais en effet, c'est un appel en cassation, donc sur des points de droit et pas sur la substance. Et on a déjà demandé que les autorités libyennes, les autorités judiciaires, tout d'abord, fait état de nos préoccupations et ils essayent de donner en effet une solution équitable à ce procès et aussi que les autorités libyennes commencent à entamer un processus de réforme judiciaire.
9 des accusés ont été condamnés à mort, y compris Saif al-Islam Kadhafi, jugé par contumace. Mais quand vous dites que le procès soulève de nombreuses préoccupations, vous pensez à quoi exactement ?
C'est le déroulement du procès. Alors on a identifié plusieurs violations, par exemple le fait que les longues périodes de détention au secret pour les accusés. Il y a eu des allégations de torture. On a eu aussi beaucoup d'avocats qui se sont plaints des difficultés à rencontrer leurs clients ou bien à accéder à la documentation du procès. Et le droit à la défense a été également compromis par le fait qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accusation. Aucun témoin n'a été présenté devant le tribunal. Et le tribunal a limité à 2 le nombre des témoins pour chaque accusé. Donc, pour un procès de cette envergure, de cette complexité, c'est pas acceptable. C'est une violation du droit à la défense, selon les standards internationaux, mais aussi selon le système libyen, où il y a, par exemple, une décision de la Cour suprême qui demande que toutes les preuves soient présentées au tribunal, que ce soit pas simplement un procès sur des papiers.
Autre préoccupation soulevée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est par rapport au système judiciaire libyen qui ne prévoit pas un mécanisme de recours complet, mais uniquement le pouvoir en cassation. Quelque part, est-ce à dire que ces gens-là, quand ils sont condamnés, ils n'ont plus de recours possible?
C'est un recours simplement sur des points de loi. Maintenant, la Cour de cassation pourrait décider elle-même changer la sentence finale ou bien renvoyer le procès devant la même cour de première instance ou une cour à une composition différente. Nous, on demande aux autorités judiciaires libyennes qui prennent pleinement en compte les violations de la procédure en attendant que des réformes nécessaires puisse passer une fois que le Parlement reprend ses fonctions, etc.
Par rapport à vos recommandations, est-ce qu'on ne doit pas remettre le sort de Saif al-Islam devant la Cour pénale internationale, par exemple?
En effet, en ce moment, la Cour pénale internationale demande que Saif al-Islam soit envoyé à La Haye. Et donc, nous, on soutient cette requête. C'est en effet une obligation de la Libye, car il y a une résolution du Conseil de sécurité qui demande à tous les États, y compris la Libye, d'accepter les requêtes de la Cour. Donc, au cas où les autorités libyennes peuvent reprendre contrôle de la détention de Saif al-Islam, il faudrait qu'il envoie à La Haye selon la requête de la Cour.
Est-ce que vos équipes sur place ont eu accès à Saif al-Islam? Est-ce qu'elles ont des nouvelles de Saif al-Islam? Est-ce qu'il est toujours en vie, toujours en Libye, toujours en détention?
La dernière fois qu'on a vu Saif al-Islam, c'était en juin 2014, lors de la dernière session du procès dans laquelle il a participé. Depuis ce moment-là, en dépit de plusieurs requêtes, on n'a pas réussi à lui parler ou à voir que ce soit.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Presque 16h17, vous écoutez CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. C'est votre rendez-vous info quotidien, le débrief qui se poursuit en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 22 février. On change de perspective, on change d'échelle, on passe aux nouvelles provinciales. C'était jour de budget aujourd'hui pour le gouvernement provincial de Christy Clark. Après le discours du trône lu la semaine dernière, rappelez-vous, par la lieutenante gouverneure générale Guichon, le gouvernement provincial plutôt à dévoiler son budget en chambre, ici même à Victoria. Et Radio-Canada, justement, vient de faire un petit résumé. Ça vient d'être déposé sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada sur Internet. Cinq choses à retenir du budget 2017 de la Colombie-Britannique. Numéro 1, réduction des primes ou cotisations, si vous préférez, d'assurance maladie. À compter du 1er janvier 2018, les primes d'assurance maladie seront réduites de 50% par adulte pour les foyers gagnant 120 000 $ par an ou moins. Numéro 2, investissement pour l'école. Bien que les négociations soient encore en cours avec la Fédération des enseignants, la BCTF, indique cet article de Radio-Canada, à la suite d'une décision de la Cour suprême du Canada, le budget de l'éducation obtient une nouvelle enveloppe, 740 millions de dollars en plus, sur 3 ans, dont 228 millions pour augmenter les inscriptions dans les écoles, améliorer le financement des établissements en zone rurale et développer le transport scolaire. Numéro 3 de cette liste de 5 choses à retenir du budget 2017 de la Colombie-Britannique. Numéro 3, bien-être des enfants. Le ministère des Enfants et du Développement de la Famille recevra 287 millions sur 3 ans, dont 120 millions pour répondre aux recommandations du rapport du grand chef Ed John sur les enfants autochtones de la province. Numéro 4, logement abordable et premiers acquéreurs de biens immobiliers. La province avait annoncé 855 millions en 2016 permettant la construction de 4 900 logements abordables dans la province. Ce chiffre passe à 920 millions de dollars pour près de 5 300 logements abordables. Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de dépendance bénéficieront de cette rallonge. Le programme d'exemption de la taxe sur le transfert de propriété pour les premiers acheteurs de biens immobiliers sera élargi. Ce programme touchera désormais plus d'acquéreurs puisque le seuil du prix d'achat du logement passera à 500 000 $ contre 475 000 en ce moment. Ce programme d'exemption permet aux futurs propriétaires d'économiser jusqu'à 8 000 $ en taxes sur le transfert de propriété. Numéro 5, finalement. Dans cette liste de 5 points à retenir du budget provincial d'aujourd'hui, le monde des affaires, les entreprises, peu importe leur taille, verront leur taxe provinciale sur l'électricité éliminée d'ici 2 ans. Donc, plus de taxes provinciales sur les factures de BC Hydro pour les entreprises, peu importe leur taille. Ça, c'est à partir de maintenant ou très prochainement et plutôt dans 2 ans. Et ça représente, indique Radio-Canada, 164 millions d'économies pour le monde des affaires à travers la province de Colombie-Britannique. En outre, l'impôt sur les petites sociétés passera de 2,5 à 2%. Donc, c'est une baisse d'impôt pour les PME qui est consentie ici par le gouvernement de Christy Clark. Il s'agit donc pour la province du deuxième taux le moins élevé au pays après celui du Manitoba où il n'y a aucune taxe pour les petites sociétés. La province de Colombie-Britannique poursuit cet article, souligne aussi un investissement de 13,7 milliards de dollars sur 3 ans dans le développement de projets d'infrastructures divers. Donc, ce résumé, vous pouvez le trouver sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. 5 choses à retenir du budget 2017 de la Colombie-Britannique. C'est un budget qui a été divulgué aujourd'hui même ici à Victoria pour l'ensemble de la province et ça fait suite au discours du trône de la semaine dernière qui ouvrait une nouvelle session parlementaire dans la province. Alors, évidemment, il y a eu des réactions et les observateurs, commentateurs, blogueurs et Twitter, etc., ont bien sûr remarqué que les promesses qui avaient été faites dans le discours du trône de la semaine dernière n'ont pas toutes été remplies. Le discours du trône laissait entendre que la taxe provinciale, la taxe d'achat provinciale allait être réduite de quelques points. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'était assez important. C'était une promesse qui était effectuée dans le discours du trône. Ça ne s'est pas concrétisé. Et c'est souligné par le journaliste Rob Shaw dans le Vancouver Sun aujourd'hui. En après-midi, cet article a paru tout de suite après le dévoilement du budget. D'autres promesses n'ont pas été remplies par ailleurs. Alors, le premier ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Mike De Jong, a renoncé à son intention de réduire la taxe de vente provinciale et de réduire les impôts, ce qui avait par ailleurs été promis ou qui avait été suggéré dans le discours du trône de la semaine dernière. Donc, il y aura des déçus, il y aura des intervenants, des gens, des citoyens déçus à la suite de ce budget d'aujourd'hui. Et retour sur le portail de Radio-Canada pour mentionner un élément associé à la francophonie de la province dans ce budget 2017, près de 53 millions de dollars pour le CSF, le Conseil scolaire francophone, le ministre britanno-colombien des Finances, Mike De Jong, a annoncé un investissement de 52,7 millions de dollars sur 3 ans pour répondre aux besoins en infrastructure du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le CSF. Le ministère des Finances indique que la valeur de ce fonds a été établie de la même manière que pour d'autres projets d'infrastructure à long terme dans la province. Le CSF affirme ne pas être surpris par l'annonce de cette enveloppe, des pourparlers étant en cours entre l'organisme et le gouvernement actuellement. C'est un début, mais ça doit aller plus loin pour répondre aux besoins de toutes les écoles du CSF à travers la province, a commenté Sylvain Allison, trésorier du CSF. Vous trouverez ça sur le portail de Radio-Canada. Budget 2017 de la Colombie-Britannique, près de 53 millions pour le CSF. Toujours en Colombie-Britannique, dans ce bloc provincial, cette fois pour parler de la nomination officielle de Gabe Garfinkel, qui a rallié l'investiture du comté Vancouver-Fairview. Donc, c'est lui le nouveau candidat libéral dans Vancouver-Fairview. C'est ce que nous annonce le portail Straight.com. Gabe Garfinkel a remporté la course d'investiture contre sa concurrente Elizabeth Ball, qui est conseillère municipale à Vancouver. Elle voulait elle aussi représenter la bannière libérale de l'équipe Christy Clark aux prochaines élections qui auront lieu en mai. C'est finalement Gabe Garfinkel, comme l'indique cet article de Straight.com, qui a remporté l'investiture dans la circonscription de Vancouver-Fairview. Et si on se reporte sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, financement d'une maison pour femmes autochtones dans la réserve de Lake Babine. Une somme de 10,4 millions de dollars sur 3 ans servira à la construction d'une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à Lake Babine, dans le nord de la Colombie-Britannique. La Société canadienne d'hypothèques et de logements en a fait l'annonce lundi. Vous trouverez ça sur le portail de Radio-Canada. Autrement, retour sur le portail Straight.com, on apprend que l'activiste et penseur du mouvement environnementaliste Bill McKibben se joindra aux Premières Nations et aux autres groupes qui participeront à un événement de financement contre le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan. Alors, Bill McKibben, qui est-ce? C'est un journaliste, auteur et militant écologiste américain. Il a fondé le portail 350.org. Il a remporté un prix Nobel alternatif. Et donc, c'est une star du mouvement environnementaliste. Il va partager la tribune le 4 mars lors d'un événement important de financement anti-Trans Mountain. Il va partager la tribune avec le grand chef Stuart Phillip ainsi qu'avec le chef de la nation Saïkout, Jackie Thomas, et ainsi qu'un activiste de la nation Aitsuk, Jess Austi. Donc cet événement se tient au campus de Simon Fraser University le 4 mars. Donc Bill McKibben, qui est un des invités vedettes de cet événement du 4 mars, c'est rapporté par Charlie Smith dans le portail Straight.com. On revient sur le portail Radio-Canada, Noirs en affaires dans l'Ouest. Donc on parle de personnes, des Afro-Canadiens, certains d'entre eux étant immigrants, nouvellement installé au Canada depuis quelques années ou plus. Donc c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Radio-Canada nous propose des portraits de membres de la communauté noire locale, donc de Colombie-Britannique, qui se sont impliqués, engagés dans notre économie ici dans l'ouest du Canada. Et il y a un projecteur qui est braqué sur 4 entrepreneurs en particulier. Leurs histoires sont très intéressantes. Je vous encourage à consulter cet article intitulé « Noir en affaires dans l'Ouest ». Il est question de Ngoné Dion. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom. Pardon si ça n'est pas le cas. Elle a lancé un réseau de salons de coiffure. Il est question également de Jeanne Zita, qui est très engagée dans sa communauté et chef d'entreprise. Par ailleurs, il est question aussi d'Aurélien Balondona, un Camerounais qui fabrique des conteneurs dans lesquels on peut habiter. Alors, ça s'inscrit un petit peu dans la mouvance des tiny houses. Et finalement, dans cette liste de portraits de personnes noires ayant est active dans l'économie de l'Ouest du Canada, il y a Céline Moukoumi, qui est dans le domaine du transport routier. Elle est française d'origine capverdienne et elle est directrice des opérations de l'entreprise de transport Q-Line Trucking. Alors, ces portraits sont fort intéressants et ouvre une fenêtre sur la communauté afro-canadienne ici dans l'ouest du Canada. Noir en affaires dans l'ouest, c'est sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Dans le journal Métro, sur le portail journalmétro.com, on nous indique que les skieurs disparus dans la région de Kamloops récemment ont été retrouvés. Les 7 personnes portées disparues lundi dans une station de ski située près de Kamloops en Colombie-Britannique ont toutes été retrouvés sains et saufs. Alan Hubler, de l'équipe de sauvetage de Kamloops, a indiqué que 3 personnes avaient été trouvées tard lundi et que les recherches pour retrouver les 4 autres disparus s'étaient poursuivies dans la nuit. Les skieurs et planchistes disparus ont été repérés à différents moments après minuit. Les 2 derniers disparus ont été trouvés vers 3 heures du matin. Donc une histoire qui se termine bien du côté de Kamloops. Et si l'on poursuit dans ce bloc provincial, cette fois dans le fil de la presse canadienne, une enquête lancée auprès des Creep Catchers à Surrey. Une enquête est en cours en Colombie-Britannique au sujet du groupe controversé de traqueurs de pédophiles Creep Catchers. Le bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, responsable de cette enquête, dit avoir agi après le signalement d'une plainte à Surrey. Aucun autre détail n'a été révélé sur la nature de la plainte ou de l'enquête. Les membres du groupe Creep Catchers prétendent être des adolescentes sur Internet dans le but de piéger d'éventuels prédateurs sexuels. Ils organisent des rendez-vous avec ces prédateurs qu'ils appâtent et leur demandent de s'expliquer en filmant la rencontre. Ils placent ensuite la vidéo en ligne. Ces justiciers sont présents dans plus de 18 villes canadiennes. En Colombie-Britannique, ils ont des groupes organisés à Kelowna, Kamloops, Nanaimo, Penticton, Surrey et ici même à Victoria. Le groupe a été récemment critiqué pour avoir faussement accusé un agent de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, ainsi qu'un homme de Surrey. Donc ils se sont trompés sur certains cas et ont compromis un petit peu leur intégrité. Alors c'est un groupe qui se veut un groupe justicier et il se retrouve dans l'actualité. Une enquête a été lancée auprès du groupe Creep Catchers. C'est le titre de cet article paru dans la presse canadienne. Vous le trouverez notamment sur le portail Radio-Canada. Et toujours sur Radio-Canada, un homme mort et trois en détention après une fusillade à Abbotsford. Un homme dans la mi-vingtaine est décédé et trois autres sont en détention policière après une fusillade et une course-poursuite à Abbotsford en Colombie-Britannique. Vous trouverez ce fait divers sur le portail de Radio-Canada également. Et puisque ce bloc provincial n'est pas complet sans une mention de la crise des surdoses qui sévit en Colombie-Britannique, vous le savez, la province est en état d'urgence sanitaire actuellement et ça concerne plus que la Colombie-Britannique, ça concerne l'ensemble du pays. L'Ouest canadien est particulièrement touché et il y a cet article sur le portail de Radio-Canada. Des Edmontoniens se préparent à rallier contre la crise des opioïdes. Une association canadienne de personnes qui utilisent des drogues manifestera contre la crise des opioïdes mardi à Edmonton et dans 6 autres villes canadiennes. Donc cette manifestation a eu lieu aujourd'hui. Des rassemblements ont eu lieu également à Vancouver, ici même à Victoria, Nanaimo, ainsi que Toronto, Montréal et Ottawa. La campagne Life Won't Wait, la vie n'attendra pas, demande aux gouvernements provinciaux et fédéral de réviser leur approche concernant la crise mortelle des opioïdes et du fentanyl au pays. Rappelons que la crise de surdose a fait près de 920 décès ici en Colombie-Britannique durant l'année 2016. Le mois de janvier a de nouveau été un mois tristement record et à ce rythme-là, l'année 2017 dépassera en décès l'année 2016. Donc, les autorités sanitaires sont encore aux prises avec cette crise qui est très aiguë et très critique. Et si vous n'avez pas suivi cette crise, si vous voulez connaître les informations de base et comprendre l'ampleur de la crise, il y a un excellent reportage de Radio-Canada sur le sujet. Je l'ai trouvé sur le site Huffington Post, le cauchemar du fentanyl en Colombie-Britannique, et il y a des témoignages d'usagers de drogue, notamment le témoignage de Daniel Lambert, qui est toxicomane installé à Vancouver depuis quelques années. Il était venu s'installer à Vancouver pour les Jeux Olympiques et profiter du boom de la construction. Il travaille dans l'industrie de la construction et il a commencé à consommer pour soulager ses maux de dos et s'est trouvé pris dans un engrenage. Et c'est un témoignage qui est très très dur, mais très informatif. Alors, si vous voulez vous mettre à la page sur cette crise des surdoses, c'est un bon endroit où commencer. Le cauchemar du fentanyl en Colombie-Britannique sur les sites du Huffington Post et de Radio-Canada. On va refermer ce bloc provincial. On fait une petite pause musicale avec l'artiste Sally Folk, une pièce qui s'intitule « J'aurai ton enfant quand même ». Et on se retrouve dans 2 minutes, un peu moins de 3 minutes en fait, pour les nouvelles du jour. À tout de suite.
c'était voulu pour nous deux. Oublie nos promesses d'escapade et de richesse, mes prouesses pour te convaincre. Je t'ai voulu pour tes gènes. C'est accidentel, la pilule ou la querelle, tu la prends. La pilule vaut ses chandelles. C'est risqué de te convaincre. J'aurai ton enfant quand même.
Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, 16h36. Merci d'être à l'écoute en direct ou encore en rediffusion. On va passer aux nouvelles du jour. Il y a plusieurs nouvelles à mentionner. On commence par une nouvelle aperçue dans le fil de la presse canadienne. Délai judiciaire. L'Ontario demande au fédéral d'améliorer l'efficacité. Le procureur général de l'Ontario, Yasir Naqvi, presse le gouvernement fédéral de s'atteler à améliorer l'efficacité du système judiciaire en nommant davantage de juges et en apportant des changements spécifiques au code criminel. Cette demande survient dans la foulée de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada l'an dernier concernant le droit constitutionnel d'être inculpé d'un inculpé à être jugé dans un délai raisonnable. Cette décision de la Cour suprême de l'année dernière fixe à 30 mois le délai maximal de traitement devant les cours supérieures et à 18 mois pour les tribunaux de juridiction provinciale. Un arrêt des procédures s'est donc ensuivi dans de nombreux cas, a fait valoir le procureur Naqvi, mentionnant que certains d'entre eux concernaient des allégations de meurtre et d'agression sexuelle sur un enfant. Donc, des procès qui ont été annulés et à cause de ce droit à subir un procès dans des délais raisonnables. Donc, conséquemment, le procureur général de l'Ontario et bien d'autres observateurs au Canada demandent au gouvernement d'embaucher des juges de façon à ce que les causes soient traitées dans les délais. Discrimination religieuse, la motion des conservateurs a été battue à la Chambre des communes à Ottawa. C'est rapporté par la presse canadienne en date d'aujourd'hui. Sans surprise, la motion conservatrice visant à condamner la discrimination religieuse qui a déchaîner les passions la semaine dernière à la Chambre des communes a été défaite mardi après-midi. La motion déposée en réaction à une motion précédente, une motion du gouvernement libéral qui condamnait l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémique, a été battue. Donc cette motion conservatrice a été battue par un score de 165 contre 126. Le duel de motions entre les conservateurs et les libéraux a mené à des échanges acrimonieux dans la Chambre des communes à Ottawa la semaine dernière, les députés des camps libéraux et conservateurs se balançant mutuellement des accusations d'intolérance, rapporte la presse canadienne. Le nouveau parti démocratique, le NPD, et le Parti vert ont maintes fois déploré la tournure et le ton des débats et ont annoncé qu'ils voteraient en faveur des deux motions, ce qu'ils ont fait mardi après-midi. On va passer à une nouvelle paraissant dans les colonnes du journal La Presse. C'est sous la plume du journaliste Martin Croteau. La comparution de Bissonnette fait mal. confie un administrateur de la mosquée. Donc, c'est à propos, bien sûr, de l'attentat terroriste commis le 30 janvier à Québec contre une mosquée. La comparution du présumé auteur de l'attentat de Sainte-Foy en région de Québec, Alexandre Bissonnette, a bouleversé l'administrateur du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, mardi. Monsieur Labidi a tenu à assister au deuxième rendez-vous d'Alexandre Bissonnette au Palais de justice de Québec, considérant qu'il s'agit de son devoir. Il est ressorti ému de la brève séance. Il a dit ressentir des sentiments partagés après avoir vu le jeune homme de 27 ans dans le box des accusés. « Ça fait mal », a-t-il confié au journal La Presse, « surtout quand on voit un jeune, ce n'est pas sa place, ce crime haineux, j'ai un mélange de sensations, pitié pour celui qui a fait le crime et en même temps pour nos frères qui sont décédés pour rien ». Donc vous trouverez cet article dans les colonnes du journal La Presse, en ligne sur lapresse.ca. « La comparution de Bissonnette fait mal », confie un administrateur de la mosquée. Le Canada doit tenir tête à Trump, selon le Mexique. C'est un titre qui apparaît dans le journal Les Affaires. Le Mexique et le Canada doivent rester solidaires dans la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, ou comme on l'appelle par son acronyme anglophone, le NAFTA. Donc, le Mexique et le Canada doivent rester solidaires, dit le Mexique, et tenir tête au président américain Donald Trump. C'est ce que soutient le ministre mexicain de l'économie, Ildefonso Guadarro, en entrevue au Globe and Mail il y a quelques jours. Le ministre de l'économie mexicain a demandé à Ottawa de résister à la tentation de faire cavalier seul dans les renégociations avec Washington. L'ALENA est trilatéral, a-t-il dit, et doit faire l'objet d'une discussion trilatérale. En dépit des tentations d'emprunter une autre voie, il ne faut jamais aller contre les principes, et le premier de ces principes est d'éviter tout ce qui se traduirait par des taxes et des quotas en matière de commerce. Ce serait un retour en arrière. Donc ça, c'est la déclaration du ministre mexicain de l'économie. Alors, le journal Les Affaires, dans cet article, rappelle bien sûr que l'ALENA regroupe le Mexique, les États-Unis et le Canada depuis 1994. Durant la campagne présidentielle américaine de l'automne dernier, il a été remis en cause ce traité par le candidat Donald Trump à l'époque, qui l'avait qualifié de pire traité commercial signé par un pays et de désastre total. Donc, c'était conforme aux autres déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump, tant comme candidat avant l'élection que comme président après l'investiture du 20 janvier. Donc vous trouverez cet article à propos de l'ALENA dans le journal Les Affaires, lesaffaires.com. Et sinon, en restant sur le portail lesaffaires.com, on remarque cette nouvelle concernant Tim Hortons. La maison mère de Tim Hortons achète Popeyes pour 1,8 milliard de dollars, donc grosse transaction. Le groupe Restaurant Brands International a annoncé mardi l'acquisition en numéraire de la chaîne de restauration rapide Popeyes Louisiana Kitchen pour 1,8 milliard de dollars américains. Après le rachat en 2014 du Canadien Tim Hortons par Burger King et la délocalisation du siège social au Canada pour des raisons fiscales, le groupe RBI poursuit sa croissance dans les chaînes de fast-foods. Donc RBI, on comprend qu'ils sont détenteurs de Burger King, Tim Hortons et maintenant de cette chaîne appelée Popeyes. Et le prix que va payer RBI pour Popeyes est de 79$ par action, et soit une prime de 27% sur le cours boursier des 30 derniers jours de cette chaîne de fast-food. Et pour tous les détails de cette transaction, journal Les Affaires, lesaffaires.com. Le controversé Milo Yiannopoulos démissionne de Breitbart. Alors peut-être que ces noms vous disent quelque chose. Milo Yiannopoulos, c'est un soutien important du président Trump. C'est un membre très en vue de l'alt-right, qui est un mouvement de droite américain. Il était l'un des rédacteurs en chef du portail de nouvelles Breitbart, très très marqué à droite et parfois même à l'extrême droite. Il a démissionné de Breitbart, c'est rapporté par l'agence France Presse, si vous voulez les détails. On se transporte dans le Courrier international, ce grand grand média qui fait des revues de presse internationales, Courrier International, a remarqué que la ville de Montréal s'est déclarée ville sanctuaire pour protéger les clandestins. C'est une manchette se trouvant aujourd'hui sur le portail du Courrier International. Courrier International signale également l'anniversaire de l'increvable Mugabe, le dictateur du Zimbabwe, âgé maintenant de 93 ans. Des dépenses de 2,5 millions de dollars auraient été encourues pour souligner l'anniversaire du dictateur. Donc, c'est un inamovible dictateur en Afrique. Ce pays avait connu de l'hyperinflation au cours des dernières années et la crise économique continue de sévir là-bas. Et parlant d'autres pays sous le joug d'un dictateur, Corée du Nord, toujours dans le Courrier International, pourquoi Kim Jong-un peut tout se permettre, c'est le titre de cet article Courrier International qui est en fait une traduction d'un article paru dans la presse coréenne du Sud. Alors vous vous rappelez, on en a parlé au débrief, Kim Jong-un, selon toute vraisemblance, a fait assassiner son demi-frère qui était en exil en Asie du Sud-Est. Ce dernier a été assassiné par deux femmes dans un aéroport et ça permet d'éliminer toute forme de succession au dictateur Kim Jong-un. Donc, pourquoi Kim Jong-un peut tout se permettre? Kim Jong-un a agi au vu et au su du monde entier, écrit le Courrier International. Les observateurs étrangers analysent les éléments qui ont poussé celui-ci à passer à l'acte, le moment choisi et même les conséquences possibles de son geste, mais ils n'imaginent pas que Kim Jong-un pourrait être en train de ricaner en pensant que pouvez-vous bien me faire. Donc, en substance, cet article indique que Kim Jong-un, le dictateur de Corée du Nord, se sent au-dessus de au-dessus de la loi, au-dessus de tout reproche, et qu'il agit en toute impunité, sans conséquence. Donc c'est une analyse des événements, de l'événement des derniers jours, l'assassinat du demi-frère du dictateur nord-coréen dans les colonnes du Courrier International. Donc je vous recommande vivement cet article. On fait une nouvelle petite pause musicale dans le débrief. Il est 16h46. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 22 février. On va écouter une formation qui s'appelle Maison Brume et la pièce s'intitule Cœur Oblique. On se retrouve dans 3 minutes dans le débrief pour la suite des infos. La formation Maison Brume dans le débrief à 16h48. On va se rendre à l'interview dans quelques instants, mais auparavant, je vous mentionne un message d'intérêt public. Il y aura au 535 rue Yates, local de CILS partagé avec la Société francophone de Victoria. Le 18 mars, c'est un samedi, le samedi 18 mars, il y aura une vente de garage de la Société francophone de Victoria et de CILS, une vente de garage conjointe de 9h à 16h à ne pas manquer. On en reparlera bien sûr. Je vous le mentionne en passant comme ça. On va se rendre à l'interview, il est 16h49. Aujourd'hui, on parle de Farmanet. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé il y a quelques temps dans l'émission Le Débrief ainsi que dans l'émission Sport et Santé Magazine. On avait parlé du sous-traitant Maximus, une compagnie américaine privée qui gérait les données de notre système de santé britanno-colombien à coût très élevé. Et Farmanet est revenu dans l'actualité puisqu'il y a eu un piratage récemment et c'est de ça qu'on parle avec Julie Gagnon dans quelques instants, notre chroniqueuse régulière. Julie Gagnon est de retour. On va essayer de décortiquer tout ça, cette question du piratage de Farmanet. C'est dans quelques instants à l'antenne de CILS. Restez à l'écoute. Bonjour Julie Gagnon.
Bonjour Alexis.
Merci de revenir au débrief. Alors, on revient sur l'affaire Farmanet. Peut-être expliquer ce que c'est Farmanet. C'est un grand réseau, une base de données?
Oui, c'est ça. C'est en fait une centrale d'information voilà. Qui fait le lien entre les pharmaciens, les professionnels de la santé, les médecins. Et les prescriptions des britannico-colombiens.
D'accord.
Dans le réseau de la santé.
D'accord. Donc, quelle que soit l'affection dont on souffre, on a un médicament. Cette information-là est dans Farmanet.
Exactement. On se rend à la pharmacie chercher notre prescription et notre pharmacien a accès à notre dossier comme ça, en instantané, avec notre prescription et peut comme ça nous délivrer notre médicament pratiquement sans intervention papier ou...
Oui.
Donc, c'est très...
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui est arrivé à cette centrale d'information?
Cette centrale d'information-là a été victime depuis l'automne dernier d'environ 4 événements, dont le plus récent en février et fin décembre 2016
oui.
et début 2017, donc janvier-février,
oui.
où on aurait vu une certaine activité suspecte sur le réseau Farmanet et... ce que le ministère de la Santé a découvert, c'est qu'il y a 7500 Britannico-Colombiens qui auraient eu leurs informations dévoilées parce que ce réseau-là, Farmanet, contient votre nom, numéro de téléphone, date de naissance, numéro de carte d'assurance maladie, votre historique médical des 14 derniers mois, donc c'est des informations extrêmement sensibles, et toutes vos prescriptions. Donc, ces informations-là auraient été vues par quelqu'un qui n'est pas autorisé et il y aurait eu accès au réseau Farmanet par l'entremise d'un mot de passe d'un médecin. Donc, c'est vraiment pas une brèche dans le système ou dans la sécurité du système en soi.
C'est pas un piratage informatique.
Absolument
pas. On parle d'une faille humaine.
Oui.
Donc, un délit qui consisterait à obtenir les informations par persuasion ou tromperie. Donc, ils ont obtenu des codes d'un médecin ou d'un pharmacien.
Ou volé le code, les clés d'accès.
D'accord. Et ces informations-là sont suffisantes pour faire de l'usurpation d'identité, du vol d'identité. Mm-hmm. Alors, c'est assez grave et ça concerne, tu le disais, 7500 Britanno-Colombiens.
Oui, exactement. L'idée est en fait que ces informations-là, on sait, pourraient être utilisées contre nous, pour les assurances, pour les emplois, etc. C'est des informations qui sont considérées confidentielles et personnelles.
Oui.
Et donc, l'utilisation et la divulgation de ces informations-là pourraient vraiment compromettre la sécurité et l'intégrité des Britanno-Colombiens avec ces informations concernant leur santé, leur historique médical.
Donc, j'imagine qu'il y a
potentiellement du chantage qui peut s'exercer contre certaines personnes aussi sur des informations particulièrement sensibles relatives à leur santé.
Oui, de l'extorsion.
Oui, donc c'est très sensible. On peut créer des cartes de crédit. Lorsqu'on on réussit à capter une identité, il y a toutes sortes de choses qu'un pirate peut faire. Donc, c'est très grave.
Oui.
Comment a réagi le gouvernement et la première ministre?
En fait, le gouvernement est très concerné par cette nouvelle, en fait, dénonce la situation. Christy Clark a promis de renvoyer la personne qui serait à l'origine de cette faille, de cette brèche, de ce vol d'identité, si c'est quelqu'un du gouvernement ou des, du corps médical qui aurait donné son mot de passe. L'enquête est en cours. On devrait avoir des nouvelles d'ici peu. Doug Riley du NDP, pour sa part, lui, trouve déplorable que le gouvernement ne prenne aucun blâme sur la situation actuelle. En fait, il trouve déplorable qu'on puisse, que Christy Clark renvoie la situation en disant simplement qu'elle allait renvoyer la personne concernée.
Fautive.
Oui,
ouais.
Fautive. Le ministre de la Santé assure...
S'il s'agit, bien sûr, d'un employé du gouvernement ou du système de santé, ça pourrait être quelqu'un qui est complètement extérieur. Tu me disais hors d'antenne que 14 personnes sont sous enquête actuellement?
Oui, 14 médecins sont sous enquête présentement relative à l'activité un peu suspecte qu'il y avait sur PharmaNet. D'ailleurs, cette activité-là suspecte a été...
Identifiée,
merci, par MedNet, qui est un vendeur du gouvernement, fournisseur de services, qui lui a vraiment, qui s'est vraiment rendu compte de l'activité. Sinon, sans lui, on s'en serait pas rendu compte. Donc, on est très, on remercie MedNet d'avoir su voir cette activité-là qui était un peu suspecte.
Et c'est pas la première fois que ça se produit.
Non, malheureusement.
Dans l'ensemble du gouvernement. Pour PharmaNet, ça n'est pas une première. Et dans l'ensemble du gouvernement, c'est assez courant de quoi faire dresser les cheveux sur la tête, vu le nombre. Tu as la liste, là, devant toi.
Oui, c'est ça, le 2013, 2012. C'est pas nécessairement toujours concernant le ministère de la Santé, ni les informations par rapport au dossier médical des Britanno-Colombiens. Mais souvent, c'est par rapport au domaine de l'indication. Bon, il y a eu des informations en 2013 par rapport à la santé, en 2010, en 2009, en 2006.
Oui.
Les nombres ne finissent pas, les dates ne finissent pas.
Et c'est documenté, c'est une liste que tu as pu colliger en consultant un petit peu les articles sur la question.
Oui, c'est ça. CBC en fait l'inventaire dans un article qui s'appelle « Lottery Web Accounts That Has Been Compromised ».
Oui.
Et CBC a une liste comme ça...
Est-ce qu'on peut en citer deux ou trois?
Oui, absolument. Si on veut s'attaquer à ce qui est concernant la santé, on se rappelle qu'en 2012, il y a eu le dévoilement d'informations qui a mené au renvoiement de 8 chercheurs en santé. On se rappelle Roderick McIsaac qui avait commis un suicide à la suite des enquêtes. L'an dernier, en éducation, cette fois, le gouvernement aurait été sévèrement critiqué pour avoir égaré un disque dur qui contenait les informations de pas moins de 3,4 millions d'étudiants.
Égaré,
oui. 4000 dossiers de patients de Vancouver ont été volés en mai dernier.
Qu'est-ce que ça vaut, ça, un disque dur avec 3,4 millions de dossiers étudiants?
Je sais pas, mais...
Égaré,
oui.
On y reviendra peut-être.
Oui.
Ce serait intéressant de savoir s'il y a eu une enquête dans ce dossier. Oui. Mais bref, ta liste s'allonge comme ça.
Oui.
Et c'est CBC qui nous a bien renseigné. L'article est vraiment fait une compilation des faits de piratage et de perte de données indues au cours des dernières années. C'est assez préoccupant.
Oui.
Donc, le NPD, bien sûr, a critiqué le gouvernement dans l'affaire PharmaNet. Ce sujet, on l'a déjà abordé. Ça renvoie à une chronique que tu avais livrée ici au micro du débrief récemment. On avait parlé de la compagnie Maximus, qui est une compagnie privée américaine cotée en bourse, qui obtient par voie de sous-contrat des responsabilités dans le système de santé ici en Colombie-Britannique, à savoir gestion de nos dossiers, gestion de nos données. Et l'une des tâches de Maximus était de renforcer Pharmanet, renforcer l'intégrité, la solidité du système. Mm-hmm. En 2013, et bon, manifestement, là, il y a des failles importantes. Oui. Et bon, on peut pas lancer la pierre tout de suite, peut-être, à Maximus, sachant qu'il s'agit d'une erreur humaine ou d'une négligence humaine. Mm-hmm. C'est ce que semblent indiquer les faits. Donc, c'est intéressant. Oui. On avait parlé de Maximus. On avait évoqué la question des serveurs hébergés à l'étranger, des serveurs qui contiennent nos dossiers médicaux. Ouais. Donc voilà, donc c'est un sujet épineux. On y reviendra peut-être.
Oui, il y a une enquête d'ailleurs sur la sécurité de Pharmanet, pas juste sur cet événement-là, mais sur la oui. sécurité en général,
d'accord.
qui est menée en ce moment et qui devrait être conclue en juillet prochain. Donc on y reviendra peut-être
oui.
cet été.
Juste après les élections.
Okay. Oui. oui, c'est ça. D'accord. Après une vague, une longue histoire de dévoilement d'informations et de fuites d'informations oui. De la part du gouvernement, on aura les résultats en juillet.
Et pour terminer sur ce sujet, il y a des nouvelles toutes fraîches. L'affaire Pharmanet a éclaté à la mi-février, donc il y a un peu plus d'une semaine, mais ça continue de susciter des questions. La première ministre, Christy Clark, a été interpellée par une association sans but lucratif dans les dernières heures, en début de semaine. Cette association s'appelle le BC Freedom of Information and Privacy Association. Donc, c'est une OBNL, une organisation à but non lucratif, qui demande à la province de compenser les victimes, les 7500 victimes de ce piratage Pharmanet. Alors, on va voir comment réagira le gouvernement de Christy Clark. Un dernier mot en terminant, Julie?
Oui, ben en fait, par rapport aux compensations, faut se dire que les 4000 dossiers des patients de Vancouver l'an dernier ont reçu compensation. Ah. Donc, il y a peut-être une historique là qui pourrait aider oui. les 7500.
Un précédent?
Oui, c'est ça.
OK, formidable. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup.
Merci, Alexis.
À bientôt.
Pharmanet, impossible d'aller au bout de ce sujet, c'est quand même très profus. Espérons tout de même que la chronique de Julie vous aura donné envie de vous informer là-dessus. C'est déjà la fin de l'émission, 17h dans quelques instants. Un rappel du message d'intérêt public que je vous avais mentionné un petit peu plus tôt. Il y aura samedi 18 mars une vente de garage au 500.